Moi, ma mère, elle mettait des escalopes panées sur la table. Si j'en laissais une, elle me disait, mais tu m'aimes pas?
On parle d'amour en parlant de la maternité ce matin. Je pense que si vous aviez eu un homme, on aurait parlé de sexualité.
On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien.
Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence? Vous pouvez rester assis à rien faire devant un écran.
Et l'Église n'apporte pas des choses d'ailleurs contradictoires, mais il y a un petit plus. Et alors là, sincèrement, on ne peut pas l'acheter dans une pharmacie.
Ce week-end, 25-26 septembre, le pape a demandé à l'Église universelle de vivre une journée mondiale du migrant et des réfugiés. À peine élu, on sait que tous ses premiers gestes et voyages ont été pour aller à la rencontre des migrants. Ceux qui avaient pu échapper au pire, les assassinats, les noyades en Méditerranée. Et ses voyages sur les îles de Lampedusa et de Lesbos, durant ces voyages, il n'a eu de cesse de dénoncer la mondialisation de l'indifférence. Et il propose de remplacer la culture du rejet par une culture de la rencontre, seule capable de construire un monde plus juste et plus fraternel. Proche des migrants et des réfugiés, l'Église, dit-il, doit s'engager à comprendre les causes qui sont à l'origine des migrations, à travailler à dépasser les effets négatifs de ces migrations et à en valoriser les retombées positives. Alors on lui a reproché son irénisme, c'est pas si simple, on ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. Aussi la question que nous voulons nous poser aujourd'hui, c'est faut-il avoir peur des migrants? À Paris, on l'a dit, le diocèse vient d'inaugurer la maison Bakita, qui est un lieu d'hospitalité. En France, de multiples initiatives se déploient, comme le réseau Welcome, initié par les jésuites, destiné à permettre à des familles de faire l'expérience, l'espace de quelques semaines, d'une hospitalité transformante. Culture de la rencontre, je vous propose aujourd'hui de vivre quelques rencontres sur nos ondes. En quête de sens, Laurence Monroe, c'est parti. Je reçois Christine Sagnier, pardon. Bonjour Christine Sagnier.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste, documentariste, et vous venez de commettre un ouvrage qui s'appelle un livre qui s'appelle Mado, 13 ans, l'exil.
Oublie l'exil, pardon.
13 ans, oublie l'exil.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a porté à faire ce livre?
La rencontre d'un jeune homme réfugié, tout juste réfugié, qui est originaire du Soudan, du Darfour. Et je l'ai rencontré via France Terre d'Asile, par le biais d'un programme qui s'appelle un duo, et qui consiste à
accompagner.
Enfin, plutôt mettre en relation une personne tout juste arrivée, réfugiée, et une personne qui vit en France.
Créer de manière, duos.
Voilà, et créer un lien de manière à faciliter la vie de cette personne. Voilà.
Quelquefois, c'est même la survie au début. Hein.
Absolument. Bon, il avait déjà son statut, donc c'était un petit peu plus facile.
Son statut de réfugié, voilà. Ça veut dire qu'il avait obtenu l'asile.
Il avait ses papiers.
L'asile.
Voilà, il avait obtenu l'asile. Cependant, tout restait à faire, trouver un logement, du travail.
Ça ne donne pas à manger, ça.
Voilà, non. D'autant que le travail, j'ai constaté, pour l'avoir vraiment suivi, qu'il était très, très, très peu aidé. C'était quelqu'un en plus.
Donc vous avez été mise en duo avec
voilà,
ce garçon.
C'est
d'accord.
Ça. Voilà.
Okay, vous avez vécu l'accompagnement.
Voilà. Mmh. Et du coup, il fait partie de notre famille, Abdelaziz. Mmh. Et vu ce parcours plein de handicap, il a aidé à trouver du travail, parce que rien n'est fait pour aider. J'ai toujours trouvé qu'on mettait les gens finalement dans des voies de garage. Mm-hmm. En général, on les dirige vers le tri de déchets, enfin des choses pas très emballantes. Donc on ne peut pas dire que ce sont des gens qui vont prendre le travail des Français, parce qu'en l'occurrence, peu de Français ont envie de faire ça. Mm-hmm. Et donc, comme c'était quelqu'un qui avait travaillé beaucoup dans l'agriculture, on s'est plutôt dirigé vers le paysagisme et jardinier. Et il travaille depuis 5 ans maintenant, et il est, j'ai l'impression, heureux dans une entreprise qui, du coup, a embauché, plus d'une dizaine de personnes comme ça, réfugiées, et qui travaillent chez eux.
Donc, vous allez nous raconter l'expérience. Votre livre raconte le parcours.
Ouais.
Je voudrais quand même présenter.
Ah non, mon livre raconte autre chose. On va
y revenir.
Voilà.
Je voudrais présenter nos autres invités. Olivier Nkongolo, vous êtes en France depuis combien de temps?
Depuis à peine 2 semaines.
Vous venez d'arriver?
Oui, je viens d'arriver.
Vous venez d'où?
Je viens de la Grèce.
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez en Grèce?
En fait, je suis journaliste, je suis reporter, caméraman, monteur, réalisateur. J'ai dû faire beaucoup de choses en Grèce, notamment à Lesvos, l'île qui m'a accueilli.
Pour la petite histoire, c'est là que j'ai rencontré Olivier. J'ai filmé Olivier dans un film Moria, par-delà l'enfer, où vous avez vécu dans ce camp de Moria, qui était un véritable enfer, on peut dire ça.
Oui, un véritable enfer, effectivement. J'ai vécu là pendant plus de 8 mois, presque 9 mois.
Ce camp qui a fini par brûler il y a exactement un an, en septembre
dernier. J'étais là sur place avec ce qui s'est passé dans les nouveaux camps qu'on a aménagés. Tout, je l'ai vécu.
Donc vous avez fini par pouvoir sortir du camp.
Oui, j'ai fini par...
Vous avez attendu
pendant 8 mois. J'ai fait mon interview et j'ai obtenu mon asile avec un titre de réfugié. Voilà, il faut se décider de chercher ailleurs.
Voilà. Donc, Olivier vient d'arriver en France sans un sou en poche. Et il lui faut de toute urgence trouver du travail maintenant qu'il a ses papiers. Voilà, j'accueille aussi à distance Safi Mohamed. Bonjour Safi, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour. Oui, je suis bien du coup.
Merci d'être là. Vous êtes à Marseille, parce que c'est là que vous vivez. Vous travaillez maintenant dans un restaurant. Et vous, en fait, vous venez de d'écrire avec un journaliste, je crois, un livre qui est votre récit, Exil ordinaire d'un jeune Afghan. C'est bien ça?
Oui, en fait, j'ai écrit le livre avec un professeur de Sciences Po de Aix.
D'accord. Oui, il n'est pas journaliste alors, mais enfin, avec un français. Est-ce que vous auriez imaginé, il y a quelques années, écrire un livre en français, Safi?
Jamais, j'ai imaginé, même dans ma langue.
Même dans votre langue?
Même dans ma langue, parce que je n'ai pas allé beaucoup à l'école.
C'est ça?
J'ai jusqu'à 9 ans, j'ai allé à l'école, je ne suis pas à l'université, etc. Et mon étude, ce n'est pas beaucoup. Pour ça, je n'ai jamais imaginé que j'écrirais un livre un jour.
Voilà. Long parcours qui vous conduit à écrire ce livre alors que vous travaillez maintenant dans un restaurant à Marseille. Voilà. On va revenir sur votre parcours parce que c'est ça un peu qui va nous intéresser. Je voudrais présenter enfin Mgr Benoît de Cinetti.
Bonjour.
Bonjour père. Alors vous avez commis il y a quelques années un beau livre qui s'appelle « Il faut que des voix s'élèvent ».
Voilà.
Quelle voix? Pourquoi faut-il que des voix s'élèvent?
Les voix que vous accueillez ce soir dans votre studio, ce matin dans votre studio, non, c'est les voix de ceux qui pensent que plutôt que de prêcher un discours de peur ou de repli sur soi, la présence des migrants pour nos sociétés occidentales et notamment pour les chrétiens qui les composent, sont un défi. Enfin, cette arrivée est un défi. Un défi pour l'évangile, j'allais dire, un défi de l'accueil, un défi de la fraternité, et que, ben voilà, nous sommes devant une réalité qui nous place devant nos responsabilités de chrétiens et de citoyens.
Vous diriez que c'est une opportunité pour les chrétiens de révéler un petit peu ce qui les habite?
C'est toujours une opportunité de pouvoir se convertir lorsqu'il y a un autre à accueillir, voilà, et de prendre conscience que, comme le rappelle le pape lors de ces journées du migrant qui a été célébrée hier, aller vers un nous toujours plus grand, toujours plus large, et que le nous que nous avons l'habitude d'employer pour parler de notre réalité est toujours très limité par rapport au nous auquel nous sommes appelés à ouvrir nos vies. Voilà, et ce nous, c'est celui de la fraternité. Et nous sommes les disciples du frère universel qui est Jésus-Christ.
Très bien, magnifique. Vous avez vécu un peu cette fraternité, Christine Sagnier?
Oui, tout à fait. Mais avec, je pense que chacun peut faire quelque chose, chacun peut aller vers l'autre, avec des doutes sur sa capacité mais à aller vers l'autre, en fait, mais l'autre...
Des peurs ou des doutes?
Des doutes. Moi, en ce qui me concerne, je me disais, je ne vais pas être à la hauteur, je vais pas parvenir à le comprendre, d'autant que Abdelaziz ne parlait pas un mot de français. Donc,
mais en fait, la rencontre se faisait dans quelle langue?
Avec beaucoup de gestes aussi. Mais en fait,
des beaux gestes.
Voilà. Mais après, en fait, vu toute cette histoire, moi, je me suis dit que j'allais écrire un livre, non pas sur Abdelaziz, mais sur des enfants, parce que je me disais que tous les préjugés que l'on peut avoir tomberaient si l'on écoutait un peu l'histoire d'enfants, la voix des enfants. Et donc,
Et en fait, vous en avez écouté des histoires d'enfants.
Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai écrit un récit que je ne voulais pas être m'attacher à un père, à un de ses enfants, parce que je trouvais que c'était pas tellement sa place de révéler toute cette histoire, son histoire.
Pas de voyeurisme, donc.
Pas de voyeurisme. Mm-hmm. Donc, un récit qui tire, dont tous les fils viennent de tous ses enfants. Et d'enfants même, je dirais, j'ai lu un livre sur les enfants, justement, exilés de 1917, exilés russes.
D'autres temps.
Voilà, oui. Et d'autres temps. Et c'est toujours la même histoire, toujours les mêmes émotions.
De donc, déracinement.
Absolument.
De peur.
Absolument.
De totale non-vision sur l'avenir.
Mais pas tant que ça, parce que ces enfants-là, moi, ceux que j'ai rencontrés, sont avec leurs parents. Ce qui change tout. Ce ne sont pas des enfants qui sont arrivés seuls.
Raconte-nous quelle a été votre démarche. Donc, au départ, vous avez accompagné ce jeune homme somalien.
Voilà.
Ça vous a fait bouger.
Oui.
Je me suis trompée.
Il est soudanais.
Soudanais, pardon. Soudanais.
Oui. Après, je me suis dit, il faut faire plus. Et pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas si compliqué d'aller vers l'autre, écoutons la voix des enfants.
Donc, forte de cette première expérience, vous avez eu envie d'en vivre d'autres.
Oui.
Et là, vous êtes allée à la rencontre.
Absolument.
De mineurs
dans un centre
de migrants isolés
pas isolés justement non avec leurs parents dans un centre d'accueil un CADA de France Terre d'Asile où j'ai rencontré différents enfants des instituteurs des parents les gens qui travaillaient sur place pour essayer de comprendre ce qui se vivait là dans
leurs sentiments
voilà leurs sentiments et ceux de leurs parents et ce contraste entre les enfants qui finalement une fois qu'ils sont scolarisés sont pleins de vie et voient l'avenir, alors que les parents arrivés, une fois qu'ils sont dans ce centre d'accueil, dans l'attente d'un statut qu'ils auront ou pas, dans cette incertitude terrible, tombent dans une sorte de dépression.
De dépression, voilà. Vous le décrivez bien dans votre livre, hein, la maman passe par un temps de dépression. Alors, cette attente, je crois que c'est un mot très important de tous ces itinéraires de migration. Sa fille, quels ont été les pires moments d'attente sur votre chemin ? Par quoi il est passé ? Vous pouvez nous dire les grandes étapes de votre chemin qui vous a conduit de votre petit village à quoi ? À 100 km de Kaboul, c'est ça ?
Oui, en fait, la question, c'est de mon parcours de partir dans le village, c'est ça ?
Oui, quelles ont été les étapes ? Pouvez-vous nous dire les grandes étapes qui vous ont mené jusqu'à Marseille ? D'où vous venez, sa fille ? Vous venez d'un petit village et d'une famille d'agriculteurs.
Oui, en fait, moi, je suis venu de l'Afghanistan, de Kaboul. C'est un petit village, c'est de 1000 habitants.
Tout petit.
Elle s'appelle Mana, c'est 5 km loin de Kaboul.
Vous êtes l'aîné d'une fratrie, hein, c'est ça, vous êtes l'aîné d'une fratrie.
Oui, c'est ça. Et je suis venu à Kaboul, après j'ai pris le bus pour venir la frontière de l'Iran. Je suis venu à l'Iran, après Turquie, après Bulgare, Serbie, Hongrie, Autriche, Italie, et France et Marseille.
Ça, c'est les étapes géographiques. Parmi les autres étapes aussi, on note vous êtes passé par la case prison, vous êtes passé par la case camp de réfugiés.
Ouais.
À Vienne.
Ouais, en fait. Oui, je suis venu avec le passeur, avec plusieurs passeurs dans mon chemin. C'est vraiment dangereux et les passeurs, parfois même, je pensais pas que je sortirais vivement de cette période.
Vous avez cru mourir maintes fois.
Ouais. Oui, exactement.
Donc, vous avez laissé derrière vous votre mère et les frères et sœurs, et vous avez quitté à cause de l'assassinat de votre père, que les talibans vous menaçaient, vous directement. Vous étiez devenu policier. Racontez un petit peu. Oui.
Oui, je suis policier depuis 2013 jusqu'à 2014. Quand en Afghanistan, il y a des armées américaines dans nos régions.
Oui.
C'est eux qui font les polices locales pour sécurité de régions ou de districts.
Vous travaillez avec les Américains pour essayer de sécuriser votre région à l'époque où les talibans étaient, dans le maquis, enfin, diffusés dans la société et faisaient régner la terreur avant qu'ils prennent le pouvoir, évidemment, cet été. Hein.
Oui, voilà. Exactement.
Et cette terreur, elle a atteint le cœur de votre famille.
Oui. En fait, après, ils ont attaqué ma maison, ils ont tué mon père et malheureusement mon frère. J'ai eu plusieurs lettres de menaces. En fait, je suis sûr que si je suis là-bas, ils me tuent. Parce qu'ils sont approchés beaucoup et quand les Américains ils sont quittés le district ou nos villages, ils sont arrivés plus du territoire d'Afghanistan. C'est l'année 2014 et 2015.
2014. Mmh.
Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'Afghanistan.
Voilà, une décision absolument déchirante, mais vous comprenez que c'était vraiment une question de vie ou de mort. Décision déchirante parce que vous laissiez derrière vous, en tant qu'aîné de famille, les autres frères et sœurs et votre maman qui venait de perdre son mari d'un assassinat. Hein, voilà. Donc des histoires de grande violence, on va faire une petite pause pour se retrouver très vite. À tout de suite, merci.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
ADF Bayard Musique vous présente un extrait du nouvel album de Joachim Simas, Cantate Domino. Joachim Simas nous propose une écriture contemporaine des hymnes latines les plus célèbres dans la grande tradition musicale sacrée. Retrouvez l'album Cantate Domino de Joachim Simas chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com.
Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
J'écoute la radio en général pour apprendre quelque chose. Et parce que je suis une lève-tôt et que j'aime me tenir informée de ce qui se passe dans le monde, j'écoute la matinale de Radio Notre-Dame, les entretiens de Louis Dauphresne et de son équipe m'enrichissent chaque jour.
Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Quête de sens, Laurence Monroe.
Faut-il avoir peur des migrants ? Je suis en présence de Christine Sagnier, auteure de Mado, 13 ans, oublie l'exil, de Safi Mohamed, qui lui aussi est auteur de sa propre histoire de réfugié exil ordinaire d'un jeune Afghan, enfin d'Olivier Nkongolo, qui vient d'arriver tout juste en France avec un statut de réfugié, et de Monseigneur Benoît de Cinetti, auteur d'un livre magnifique, Il faut que des voix s'élèvent. Pourquoi faut-il donner de la voix en ce moment, Père Benoît Cinetti ? Est-ce que le temps est venu de donner un petit peu de voix à ces sans-voix ?
Le temps est toujours le bon moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais moment. Il faut en permanence être attentif pour permettre à ceux qui peuvent être victimes de notre indifférence, de notre mépris, de nos peurs même, de pouvoir se faire entendre, de pouvoir dire qui ils sont, de pouvoir se présenter à nous et s'offrir à la rencontre. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un temps favorable, particulièrement favorable. On voit bien que les discours de peur et d'inquiétude se multiplient, mm-hmm. Il y a plein de raisons que nous connaissons, hein, les grandes crises que notre monde connaît depuis ces dernières années, et notamment la pandémie qui frappe l'ensemble des pays de manière particulièrement sensible, je veux dire, dans le choc qu'elle produit chez les pays les plus riches de la planète. Tout ça provoque
ça attise les peurs. Mmh.
Des réactions de peur, de repli, d'inquiétude, de recherche aussi de bouc émissaire.
Il n'y a pas seulement la pandémie, il y a aussi la question du terrorisme, évidemment, hein, qui renforce les peurs.
Si vous voulez, le piège, ce serait d'avoir un discours par rapport à la question migratoire qui soit un discours exclusivement culpabilisant, en disant nous n'accueillons pas suffisamment, nous n'accueillons pas bien. Non, je pense qu'il faut d'abord entendre les raisons pour lesquelles les peurs peuvent s'exprimer dans nos pays, essayer aussi de comprendre.
Elles sont légitimes d'une certaine manière, ces peurs, elles ont leur légitimité.
mais elles ont leur légitimité, bien sûr. Les gens qui souffrent, ils sont toujours légitimes à souffrir, que ce soit les migrants qui arrivent, que ce soit les plus fragiles de nos sociétés qui s'estiment de plus en plus exclus, maltraités ou dans l'indifférence. Donc tout ça, c'est des réactions qui sont tout à fait compréhensibles, pas forcément toujours justifiées, mais compréhensibles, si vous voulez. Puis il y a un autre aspect sur lequel on s'interroge peut-être pas suffisamment, me semble-t-il, c'est que nos sociétés occidentales riches et développées s'interrogent souvent sur le comment on va faire, comment on fait pour accueillir des gens, comment on fait pour leur ouvrir ou pas les portes de nos pays.
Et c'est parce qu'on ne connaît pas le comment qu'on a peur, hein. C'est parce qu'on n'a pas la méthode, en fait. C'est ça qui fait peur.
Mais parce qu'on ne s'interroge jamais sur le pourquoi. Je pense que si on s'interrogeait sur le pourquoi, le comment est évidemment important, mais le pourquoi est encore plus essentiel parce que le pourquoi nous fait rentrer en relation avec l'autre. Quand on se demande comment on va l'accueillir, on est renvoyé à ses propres faiblesses.
Et ses incapacités, on est tétanisé, oui.
Voilà, et quand on se demande pourquoi il vient, à ce moment-là, on s'intéresse à lui, on s'intéresse à la raison de sa présence. Et on s'intéresse aussi à une réalité beaucoup plus profonde, beaucoup plus large que l'événement simple de la venue de quelqu'un d'un pays vers un autre pays. C'est qu'il y a tout un contexte aussi géopolitique, économique, de relations internationales, de mondialisation qu'il nous faut regarder comme citoyens, personnellement et les uns avec les autres, pour voir comment on peut permettre d'abord le plus possible à ces personnes de trouver des raisons de rester chez elles, voilà, plutôt que de simplement se focaliser sur la question, certes importante, mais qui est une question d'urgence, si vous voulez, comment on accueille. Mais la question qui ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas faire d'impasse, c'est la question plus profonde et dans le temps bien plus importante, en fait, qui est celle de pourquoi viennent-ils et dans ce cas-là, comment peut-on faire pour leur permettre de rester chez eux?
Donc, posez d'abord la question du pourquoi, à la fois à titre individuel, en rencontrant les personnes, en écoutant leurs récits, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, et aussi plus globalement, d'essayer de développer une meilleure compréhension des grands mouvements migratoires. Aujourd'hui, le monde entier est traversé de mouvements migratoires. Ça fait vraiment partie de la culture mondiale, ces grandes migrations. Il n'y a pas un continent qui y échappe. Donc, le pape invite à l'Église, les chrétiens, à développer une intelligence, une compréhension de ce qui se passe et des causes. Évidemment, pour essayer de s'attaquer aux causes, vous vouliez intervenir,
oui,
Christine.
Je pense que le monde est fait depuis de tout temps. De mouvements, de migration. C'est la vie est comme ça.
Enfin, il n'y en a jamais eu autant qu'en cette période. Je crois qu'elles ont atteint.
Est-ce qu'il y en a autant? Est-ce que quand les Cambodgiens et Vietnamiens sont arrivés, est-ce qu'ils n'étaient pas très nombreux également? Est-ce qu'on ne les a pas accueillis bien mieux? Je pense que les termes que l'on emploie actuellement de vagues migratoires, on pourrait dire drames migratoires, parce que je pense que la réalité. Personnel de chaque, c'est pas un groupe, ce sont des gens, plein de gens avec leurs propres histoires. C'est ça qu'il faut voir derrière.
C'est vrai que ce qui fait peur, ce sont les chiffres.
Ben voilà, oui.
Et les mots, vous avez raison,
le vocabulaire fait très peur.
Vous n'êtes pas une vague, Olivier, vous êtes qui? Vous êtes une personne.
Oui, je suis une personne.
Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le Congo?
Ce sont des raisons politiques. En tant que journaliste opposant au Congo, il faut s'attendre au pire. C'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai perdu beaucoup de choses en venant. Je n'avais jamais imaginé un jour quitter mon pays. Jamais, parce que j'ai fait mes études dans mon pays.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études?
Je suis licencié en gestion des entreprises, j'ai fait l'économie. Et en même temps, je suis journaliste. Je suis reporter, caméraman, réalisateur, régisseur audio et vidéo. Alors, quand on accepte d'être opposant au pays en Afrique, on se poignarde.
On prend un risque.
On prend un risque énorme. J'ai perdu mes parents comme ça. En fait, ça se passe comme ça, mais j'étais par l'intervention de Monseigneur qui dit pourquoi ils viennent. C'est très important, c'est ça la question qu'on devrait se poser. C'est ça la question que vous devrez vous poser. Pourquoi on vient?
Pourquoi vous êtes là? Pour simplement échapper à la mort, en fait. Hein.
Pour vous, échapper à la mort.
Pour vous, c'est ça l'histoire. Hein.
Oui, chacun a son histoire, mais l'histoire peut-être qui est, je vais un tout petit peu entrer en politique, l'histoire qui est créée par les politiciens qui est soutenu par les Occidentaux. Ça, il faut le dire.
Oui, c'est-à-dire que vous insistez sur la responsabilité des nations, hein, des gouvernements, dans les relations géopolitiques. En fait, les histoires de migration sont souvent des effets individuels et collectifs de conflits politiques.
Oui, ce sont des conflits politiques qui poussent beaucoup de gens à quitter leur pays. Des conflits humanitaires, aujourd'hui, ne sont pas beaucoup plus utilisés dans beaucoup de pays, mais des conflits politiques, c'est ce qui s'impose beaucoup dans des pays.
En tout cas, vous, Olivier, vous avez dû partir à toute vitesse.
Oui, à toute vitesse.
Sans pouvoir enterrer vos parents.
Oui, après avoir...
qui ont été assassinés.
Oui, après avoir suivi des menaces, des tortures, après avoir été enlevé.
Vous avez été enlevé.
Pendant plus d'une semaine.
Et vous avez dû laisser au pays 3 enfants. Comment s'appellent-ils, vos enfants ?
Il y a Armel, Arsène et Arnaud.
Voilà. Donc, Olivier espère un jour pouvoir faire venir ses enfants. Mais en attendant, il faut qu'ils puissent trouver du travail. Christine.
Oui, je pense effectivement qu'on ne choisit pas de partir. C'est pas, enfin, en général, c'est ça ou mourir, en fait. La question est là. Et déjà, on parle beaucoup de la Méditerranée. Oser traverser cette Méditerranée. De toute façon, les gens avec lesquels j'ai parlé me disaient, mais c'est ça ou mourir. Donc voilà, donc on le fait pour souhaiter une vie meilleure. Et arriver ici, se sentir en sécurité, ne pas avoir peur du policier qui est dans la rue, vivre en fait, tout simplement. Et c'est légitime.
Je suis témoin qu'Olivier, quand on l'a filmé dans le camp de Lesbos, il avait peur de ce qu'il allait dire, de ce qu'il allait pouvoir... Parce qu'il n'avait pas encore ses papiers à ce moment-là. Oui. Donc... très très compliqué. À la fois, tu as pu nous donner des images, vous avez pu nous donner des images, et en même temps, vous avez pris des risques.
J'ai pris beaucoup de risques. C'était avant que je sois jugé. C'était trop risqué. En fait, je l'ai fait parce que ce qui s'est passé dans les camps, c'était impossible. Et pourtant, peut-être la Grèce dévoile qui sont bien.
Pourquoi vous avez filmé ? Parce que pour vous, c'était important de pouvoir dire au monde ce qui se passait.
Oui, c'était vraiment très important. La réalité de ce qui s'est passé à l'intérieur. À l'intérieur, c'était interdit qu'un journaliste entre parce qu'au mois de janvier, il y avait plus de 23 000 migrés.
Dans un camp fait pour
2500. Voilà. C'était pratiquement impossible.
Une situation épouvantable. Une situation génératrice d'une grande violence.
Oui. J'ai dû filmer, j'ai envoyé des images dans beaucoup de chaînes internationales, notamment comme France 24, qui ont fait passer ça. C'est passé en direct sur Al Jazeera français. J'ai fait ça, c'était pas pour moi en fait. J'ai risqué moi-même ma vie.
Bien sûr,
En faisant ça, oui. Parce que si on m'avait vu...
Vous n'aviez pas le droit.
Mon asile allait être annulé, j'allais avoir beaucoup
avant
de problèmes.
D'avoir vos papiers.
C'était avant mes papiers... Je ne sais pas, un jour, s'ils vont retrouver ça.
Safi, vous pouvez nous redire un petit peu, je voudrais que la parole tourne, que le témoignage s'exprime. Quelle a été votre question, quel a été votre questionnement, en fait, quand vous avez décidé, finalement, de quitter votre village ? Vous étiez tiraillé entre deux attitudes.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à partir ?
En fait, j'ai pas le choix.
Vous n'aviez pas le choix ?
J'ai pas le choix pour rester ou pour aller. Mais mes amis, ma famille, ils m'ont conseillé, il faut quitter le village, il faut quitter l'Afghanistan. Parce que la majorité, en 2014, c'est la majorité du territoire des contrôles des talibans. Et ça existe partout. Et ça m'a dit peut-être que ta famille, ils vont mourir. Et toi aussi, peut-être que tu es en menace fort.
Vous avez subi des menaces directes.
Ouais. Et si tu restes, peut-être que tu es mort. Pour ça, je suis trop triste. Et vraiment, je n'ai pas de choix pour quitter mes amis qui m'ont conseillé, ma famille qui m'a conseillé, il faut que tu vives, comme tu m'as dit.
Vous êtes parti pour vivre. Vous êtes parti pour vivre.
Ouais,
pour rester vivant.
Pour vivre. Et après, ce n'est pas qu'une question de vivre. Les talibans ou les terroristes qui arrêtent, ils ont beaucoup de violence, ils partagent en vidéo. Tu fais pas ça, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est pour moi, c'est plus de mon corps. Ça, c'est pour moi, c'est pas acceptable.
Et donc,
pardon,
et sur votre chemin, vous avez vécu des belles histoires de rencontres, Safi, parce que ce livre, vous ne l'avez pas écrit tout seul.
Oui, j'ai écrit avec Giovanni Frivetera, c'est mon ami, professeur de Aix-en-Provence, l'Université de Sciences Po. J'ai raconté tout le chemin de mon village jusqu'à Marseille.
Vous racontez tout le long du chemin les amitiés qui se sont nouées à travers le, malgré l'adversité, ce qui vous a permis de traverser hein, toutes ces épreuves qui ont duré 4 ans, 5 ans, votre périple.
J'ai pas bien entendu, pardon.
Votre voyage, votre exil, le temps qui s'est déroulé entre votre village et puis l'arrivée à Marseille, et enfin avoir vos rendez-vous à l'OFPRA, et enfin pouvoir avoir votre statut et vos papiers. Il s'est passé combien de temps ? 4 ans, 5 ans ?
Oui, je suis arrivé en août 2015 en France. Et j'ai vu mon statut réfugié à la fin, c'est novembre 2018.
2019, oui, vous finissez votre livre en... Ouais. Donc, assassinat de votre père, vous êtes menacé, vous passez entre les mains de passeurs, vous vivez la prison, vous frappez à la porte de l'OFPRA, des mois et des mois d'attente chaque fois. L'attente.
Hein, l'attente, les queues interminables auprès de la préfecture et l'attente qui...
Donc la peur dans l'attente aussi. Hein.
Oui, la peur de... Enfin, je pense que l'attente, quand on arrive et que... Enfin, on attend d'abord d'obtenir, de pouvoir faire sa demande d'asile, tout est compliqué, tout. On dirait quand même qu'on met réellement des bâtons dans des roues, enfin dans les roues, c'est certainement ça. Et sur place, cette attente que les parents vivent, il se passe plus rien, quoi. C'est une sorte de trou d'air. Eux qui parfois avaient quand même beaucoup de vitalité, parce que pour arriver jusqu'en France, certains parcours sont quand même très très complexes avec toute une famille. Et arriver là, tout d'un coup, tout s'effondre. En fait, il n'y a plus qu'à attendre. Et les enfants. En fait, on dirait que l'ordre familial s'inverse, que les enfants, tout d'un coup, eux, sont eux qui peuvent aider les parents, sont eux qui vont parler, parce que les enfants parlent très vite le français quand ils ne sont pas d'origine francophone. Et donc, ce sont les parents qui vont prendre la parole à la place des parents. Et tout ça est compliqué, en fait.
Ce que vous expliquez dans votre livre, ouais, hein, Mado, ouais. Elle a quoi? Elle a 13 ans. Donc, 13 vous imaginez ans. Un personnage ouais. féminin
ouais.
qui quitte un pays, on ne sait pas très bien
d'Afrique,
lequel, mais
plutôt.
C'est un pays d'Afrique, hein, oui. C'est pas localisé. Mm-hmm.
Oui. Volontairement, je ne l'ai pas localisé parce que j'avais vu des enfants...
Il y a quelque chose d'universel,
voilà, hein. Des quatre coins du monde. Bon. Et, mm-hmm.
C'est toujours la même histoire.
C'est toujours la même histoire. Mais cette petite fille... voit aussi sa mère et c'est assez difficile en fait de voir sa mère dans cet état de déprime mais après elle est fière de sa mère, elle est fière une fois que tout ce parcours s'achève et qu'une nouvelle vie commence elle en est fière mais elle a pu aussi se lier d'amitié parce que les choses sont faites pour les enfants, en fait. Il y a l'école, il y a des centres... Enfin, dans les centres d'accueil, il y a...
Là, vous parlez des centres d'accueil pour les demandeurs
voilà,
d'asile, ouais, les ouais. personnes qui attendent leur
voilà,
asile.
Voilà, les CADA, ouais. Et il y a là des lieux où les enfants peuvent suivre des cours, s'amuser, enfin... Mais jamais assez, en fait, parce que pendant les vacances, je ne sais pas s'il y en a actuellement durant toutes les vacances scolaires.
Je vous propose de faire une petite pause en compagnie d'un chanteur congolais très connu en France, mais vous m'avez dit, Olivier, qu'il n'avait jamais eu sa nationalité. Et pourtant, ouais. C'est une vedette. Sapé comme jamais.
Radio Notre-Dame.
On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rombo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Ça, ouais, façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça ouais, façon Aladdin. passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma.
Ça brille comme jamais, ça brille comme jamais, ça brille comme jamais, ça brille comme jamais.
Apprécie mon parcours. Hende Katako, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais gamo, pour deux crocos sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'le dis. Normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasso focalisé. Sapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Lui vite ton sac, j'vais la recette.
Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma.
Ça brille comme jamais, ça brille comme jamais, ça brille comme jamais, ça brille comme jamais.
C'était Sapé comme jamais de Maître Gims. Qu'est-ce que c'est que cette musique, Olivier?
Bon, Maître Gims, c'est un Congolais né à Kinshasa. Il quitte le Congo à 2 ans avec
donc
son père.
Donc c'est votre pays, hein?
Oui, avec son père Junana, qui est aussi musicien. Il vient en France et après quelques temps, il explose avec son frère.
Il explose de succès.
Il explose de succès.
Musique, ouais.
Il est au top dans le monde. Et sa musique et son frère aussi, Dadju, qui chante aussi bien. Ils viennent tous de la famille.
C'est une histoire de réussite. Hein,
oui, c'est une histoire de réussite.
Mais pas forcément d'intégration complètement.
Ouais.
Alors, vous aviez envie, Olivier, de nous reparler un petit peu. En tout cas, moi, j'avais envie d'entendre que vous nous redisiez un petit peu votre vie dans le camp de Moria.
En fait, la vie dans le camp de Moria, ce n'était pas facile d'abord de vivre. Je l'ai vécu pendant 9 mois, comme je l'ai dit. Il y a d'abord les racismes qui règnent dans les camps.
Contre les Africains.
Contre les Africains, c'est vraiment énorme. Et quand on est
c'était un camp qui était peuplé à grande majorité d'Afghans, je me souviens, 85%
d'Afghans. Oui, 85% c'était des Afghans et les 15 autres c'était les Africains. La majorité des Africains venaient des Somalis et le reste c'était des Congolais, Camerounais et autres. Mais on a passé du temps énorme. J'ai fait 9 mois, on a enterré presque 7 Africains qui étaient poignardés par les Afghans. C'était grave.
C'est la violence qui régnait à cause de la surpopulation.
À cause de la surpopulation et l'argent qui n'était pas là, suffisant. Quelqu'un qui touchait 70 euros, 75 euros, pourquoi faire avec peut-être 2-3 enfants, que ça fait. Et c'est comme ça qu'on a vécu.
En fait, ce qui m'a frappé, c'est que il y avait un sort un peu différent réservé aux Africains. Les Africains mettaient beaucoup, beaucoup plus de temps à être convoqués, à recevoir à pouvoir raconter leur histoire une première fois. Au bout de combien de temps vous avez pu raconter votre histoire, Olivier? Il a fallu combien de mois pour que vous puissiez raconter votre histoire?
Il a fallu 8 mois pour que je raconte mon histoire, mais c'est parce que j'étais parti réclamer. Moi, normalement, mon interview était prévue en 2021. C'était au mois de mars 2021. Et je suis parti, j'ai réclamé, je lui ai dit, je n'arrive pas à vivre ici, je ne mérite pas. Je vais passer à l'interview. C'est comme ça qu'ils m'ont récupéré, ils m'ont donné juste 2 semaines de me préparer. J'étais prêt à passer à l'interview, je l'ai fait. Et après, au bout d'un mois et demi que mes résultats sont sortis, j'étais reconnu. Mais en fait, c'était moi. Je suis peut-être parmi le 3% des Africains qui ont été reconnus en Grèce.
Pour un qui est reconnu comme...
La majorité des gens...
Comme réfugiés, il y en a beaucoup qui restent là-bas. On est en contact avec d'autres Africains.
Oui, qui sont rejetés.
Encore, qui ont reçu un rejet, deux rejets, qui sont perdus entre deux...
C'est compliqué, en fait.
Voilà. Et alors, sur place, vous avez... Vous n'êtes pas resté passif. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait sur place, Olivier ?
Sur place, j'ai dit créer des choses. J'ai dit créer des ONG. Avant, à Moria, il n'y avait pas de nourriture qui entrait. À Lesbos, bien sûr, les nourritures qui entraient dans l'intérieur. Je l'ai fait avec l'Église catholique, en passant par le Père Maurice et Hélène, à qui on a beaucoup aidé les gens. On proposait à l'Église catholique. Vous savez, l'Afrique... Nous, on n'est pas habitué à manger la nourriture européenne.
Vous êtes rendu compte, en fait, que les Africains ne supportaient pas les portions de nourriture qui, d'abord, étaient très, très légères et qui étaient distribuées dans le camp. Et donc, vous avez organisé des comptines, enfin, une solidarité alimentaire, hein, c'est ça. Chacun mettait en commun quelques euros, et puis ensemble vous avez réussi finalement à améliorer la nourriture et donc la santé d'une partie de la communauté africaine du camp.
Oui, j'ai compris qu'il fallait juste que je démarre pour que les autres voient.
Il fallait lancer le mouvement.
Oui, aujourd'hui ça existe.
Et maintenant ça continue. Voilà. Ce sont des belles expériences de solidarité, mais alors à quel prix, hein, à quel prix? Père Benoît Tsinetti, comment vous réagissez à ces récits?
Ben, c'est bouleversant parce que, d'abord, c'est magnifique en termes de désir de vivre et tout combat un peu vital comme ça est toujours bluffant, quoi. Surtout quand on entend ça chez soi, dans son confort français, tranquille, quoi. On n'a pas de, voilà. Après, moi, ce que je trouve assez sidérant, si vous voulez, c'est que, à travers ces récits qu'on a évoqués à l'instant, il y a en creux quelque chose de très troublant, c'est-à-dire une espèce de comme si nos pays, plutôt que de risquer l'accueil ou de risquer le non-accueil, choisissent de ne pas adopter de posture, voilà, et laissent pourrir les gens. En fait, il y a cette espèce de mot d'ordre. Ce n'est pas un mot d'ordre écrit sur des papiers.
La fameuse attente dont on a parlé, moi, qui m'a paru aussi effarante. C'est moi et c'est moi et c'est moi d'attendre dans le doute, en n'ayant aucune nouvelle, en étant appelé par un numéro. Personne ne sait que vous êtes là. Personne même ne sait que vous êtes là. Ouais. Encore moins pourquoi vous êtes là.
Et puis il y a ce côté, on laisse pourrir. Et puis vous savez, après, quand les personnes arrivent en France, par exemple, il y a une autre forme de pourrissement qui est de les laisser dans leur solitude sans leur apprendre, par exemple, à pouvoir s'exprimer dans notre langue. Ouais. Je lisais l'autre jour, on parle beaucoup du départ de Mme Merkel comme chancelière d'Allemagne, et tout un tas d'articles de bilan qui se font autour de son temps de gouvernement. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est un chiffre très simple, hein, c'est qu'un étranger qui arrive en Allemagne et qui demande à y rester pour y travailler... avant toute autre chose, on l'oblige à suivre des cours d'allemand entre 600 et 900 heures d'allemand.
Voilà. C'est juste indispensable pour pouvoir s'intégrer, en fait. Hein. Oui.
Qui leur donne un niveau de connaissance de la langue qui est bon, voire courant, à l'issue de cette formation. En France, la formation qui n'est pas obligatoire, elle est de moins de 200 heures, ce qui donne un niveau apprentissage. Ce qui veut dire que, en fait, nous nous contentons d'accueillir, de laisser des gens entrer sans leur donner les moyens de pouvoir communiquer dans la langue du pays et donc de faire leur démarche et donc d'avoir une attitude pour nos concitoyens qui soit une attitude rassurante, parce qu'évidemment c'est inquiétant pour les gens qui vivent dans les quartiers où sont stationnés beaucoup de migrants d'être entourés par des gens qui parlent mal la langue, voire qui ne la parlent pas, qui semblent désœuvrés, qui semblent traîner dans les rues.
Forcément, ça fabrique de la peur, ça. Comment ça peut être autrement?
Et ça permet, et ça ne permet pas aux migrants de pouvoir faire les démarches élémentaires pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir chercher du travail. En Allemagne, 40% des migrants accueillis depuis 2015 ont trouvé aujourd'hui un travail. C'est absolument... Alors, bien sûr qu'il y a des problèmes partout. Je ne dis pas que l'Allemagne est un pays exemplaire à tout niveau, mais sur ce plan-là, on aurait quand même à faire un examen de conscience. En tout cas, les gouvernements successifs en France et l'État français aurait à faire un examen de conscience quand même considérable.
C'est sûr que Madame Merkel a incité à développer une culture de l'accueil. Elle a pris ce risque-là et donc elle a organisé un peu les choses. Christine Sagnier, vous vouliez intervenir.
Oui, je pense qu'on dépense quand même beaucoup d'argent à protéger nos frontières et peut-être que cet argent, on pourrait aussi en partie le mettre dans le soutien plutôt aux gens qui arrivent et qui ont de bonnes raisons d'arriver. Enfin, je veux dire, souhaiter une vie meilleure, c'est quand même une très bonne raison. Ou souhaiter ne pas mourir sur place. Vivre tout simplement,
rester vivant.
Voilà, et je pense aussi qu'il est important de dire que les premiers à souffrir du terrorisme, ce sont les gens qui sont partis. Ce sont dans leur pays qu'on souffre. Les terroristes, ça peut être finalement le président au pouvoir, qui finalement, c'est une forme de terrorisme aussi, d'interdire la parole.
Moi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement dangereux, c'est quand on favorise l'amalgame entre migrants et terroristes.
Absolument.
Parce que la plupart des migrants ont fui le terrorisme,
oui,
en réalité.
Bien sûr.
Tous les Afghans du camp, ils fuyaient les talibans. Vous avez fui Olivier... une forme de terrorisme terrible aussi. Enfin, vos deux parents ont été assassinés sous vos yeux. Enfin, si c'est pas ça du terrorisme,
ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, entendre des histoires, moi, ça me semble très important pour.
Mais pour comprendre, il faut écouter les gens pour essayer et surtout avoir de l'empathie parce que je pense que ça peut nous arriver. Ça nous est arrivé dans le passé, pendant les guerres, tous ces exodes en 1940. Enfin, et ces enfants, moi, que j'ai rencontrés, ces parents. C'est nous en fait, ce sont des agriculteurs, des commerçants, des médecins, des
c'est
chefs d'entreprise.
C'est toute l'histoire des hommes. Hein.
Voilà, c'est tout.
Mon
ce n'est que ça.
Un araméen errant.
Ouais.
Oui.
Ah ouais.
C'est toute l'histoire des hommes, l'immigration. Sophie, comment vous voulez intervenir dans notre échange? Qu'est-ce qui vous frappe sur ce que nous avons échangé sur la violence les attentes, le racisme, les difficultés d'intégration. Racontez-nous les étapes, en fait, le temps qui s'est passé entre le moment où vous arrivez à Marseille et le moment où enfin vous pouvez travailler. Racontez-nous les étapes.
Quand je suis arrivé à Marseille, je ne parle pas français, je ne connais pas la culture française, en fait, je n'ai rien. Quand j'arrive, les Afghans, mes patriotes, m'ont beaucoup aidé pour apprendre le français, pour me rencontrer avec les associations, etc.
Comment vous avez appris le français?
J'ai appris avec association. Il y a plein d'associations à Marseille. Et à la fin, j'ai appris avec mes amis. J'ai trouvé beaucoup d'amis français et françaises. En fait, au début, c'est très, très difficile pour moi vivre en France parce que les problèmes de papier, c'est très difficile. Quand je suis dubliné, c'est vraiment difficile.
Ça veut dire quoi, dubliné? Racontez-nous.
En fait, dubliné, quand on rentre dans le premier pays européen, si la France les enfants là-bas, il faut rester là-bas.
C'est-à-dire que là où vous, la Convention de Dublin, hein, là où vous recevez votre première, c'est le pays vers lequel vous frappez en premier. Donc pour vous, ça a été le pays d'Europe vers lequel vous frappez en premier, ça a été l'Autriche pour vous?
Ouais, c'est l'Autriche. En fait, je ne fais pas de demande d'asile, mais en Autriche, ils se sont arrêtés, ils m'ont pris mes empreintes, ils m'ont foutu en prison pendant une semaine. Et
ça commence par la prison, le parcours. Oui.
Ouais. Après, ils sont mal laissés dans un camp qu'il y a 5000 personnes à Vienne, la capitale d'Autriche.
Vienne, oui. Vous avez été dans un camp de réfugiés à Vienne. Ça a duré combien de temps?
Ouais, en fait, c'est pour une semaine. En fait, ils ne m'ont pas donné une chambre. Je dors dans le parc.
Dehors? Vous dormiez dehors?
Ouais, je dormais dehors dans le parc, elle fait toujours plus, toute l'après-midi, plus à Vienne.
Sous la pluie.
Et j'ai essayé de répéter d'Autriche parce que je me suis dit, je ne peux rien faire ici. Mais quand j'arrive en France, à Marseille, à la structure de Marseille, j'ai mis mes enfants, il m'a dit, vous êtes doubliné, il faut retourner à Autriche, ou si vous ne voulez pas retourner à Autriche, il faut attendre 18 mois.
Donc vous êtes renvoyé d'un pays à l'autre?
Ouais, en fait, les polices, il m'a dit, vous pouvez retourner en Autriche parce que vous avez le premier fait que vous faites les empreintes là-bas. Et en fait, c'est compliqué. En fait, quand j'arrive à Marseille, j'ai pas logement, j'ai pas logement. Et juste, j'ai appelé 115. Je vais dormir au 115 de Marseille parce que là-bas aussi, c'est pas évident vivre.
Vous êtes arrivé sans logement. Vous êtes renvoyé, Olivier, c'est un peu votre expérience aussi en Grèce. Quand vous arrivez enfin à quitter l'île de Lesbos, vous atterrissez à Athènes. Et là, comment est-ce qu'on vit à Athènes quand on est... Comment est-ce qu'on vit, quoi? On ne connaît pas la langue.
C'est ça, le problème.
On ne connaît personne.
Le problème, c'est
la langue. On n'a pas un sou. Comment est-ce qu'on fait pour trouver du travail?
C'est ça, le problème. Même quand on est reconnu en tant que réfugié en Grèce, il y a des difficultés. J'ai eu mon asile. Et je quitte Lesbos et l'île, je pars à Athènes, c'est leur capitale, et j'arrive, il n'y a personne qui m'accueille.
Personne ne vous attend.
Ouais. Tu dois te débrouiller.
Qu'est-ce que tu fais?
Tu passes nuit dans des parcs, et pourtant tu es reconnu comme réfugié, tu passes nuit dans des parcs, et pourtant il y avait tout. J'avais tout, tous les atouts. Le problème, c'est la langue.
Vous avez des formations, vous avez des diplômes, vous avez de la compétence, votre droit d'asile, vous avez votre droit de séjourner.
J'ai 10 ans d'expérience dans les travaux.
Et malgré ça, on dort dans les parcs.
On dort dans les parcs, il n'y a personne qui te conduit, il n'y a personne qui t'aide. Il n'y a pas des ONG qui se présentent devant toi ou qui t'accueillent, qui te dit « tu as eu ton asile, voilà ce qu'il faut faire ».
Vous êtes resté combien de temps en Grèce avant de pouvoir...
Je suis resté une année et 10 mois.
10 mois. Et pendant 10 mois, comment vous avez fait pour vivre?
C'est très, très compliqué. Impossible, il faut demander. Il fallait créer l'amitié que j'ai créée avant. C'est ce qui m'a aidé à demander tout le temps. Mais tu ne vas pas vivre comme ça tout le temps.
Les amis. Voilà, les amitiés. Est-ce que j'aimerais donner le mot de la fin à Benoît Tsinetti pour conclure sur cette question? Faut-il avoir peur des migrants? Nous avons écouté des récits. Vous avez quelques minutes très rapidement pour conclure.
Écoutez, moi, je dirais juste une citation d'Angela Merkel que j'ai évoquée tout à l'heure lorsqu'elle était en décembre 2015 devant les étudiants à Berne, qui l'interrogeait sur la capacité d'accueil de ces nombreux migrants en Allemagne. Elle leur répondit à peu près dans ces mots en leur disant que c'était une occasion exceptionnelle et inédite pour un pays comme l'Allemagne de pouvoir présenter à tous ces autres étrangers qui arrivaient ce qu'était un pays qui s'était bâti notamment sur l'évangile et sur la culture chrétienne.
Magnifique. Donc les sources chrétiennes de l'Europe, elles doivent se manifester par notre capacité à intégrer, à faire face à cette nouvelle réalité. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Monseigneur Benoît Tsinetti, auteur de « Il faut que des voix s'élèvent ». Christine Sagnier, auteur du livre « Mado, 13 ans, oublie l'exil ». Safi Mohamed, afghan réfugié à Marseille, qui vient de produire un livre sur son histoire personnelle, « Exil ordinaire d'un jeune afghan ». Enfin, Olivier Nkongolo, qui vient d'arriver en France et qui cherche du travail comme journaliste.